Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, cette nouvelle audition en Mayenne. L'adolescente disparue lundi est à nouveau entendue par les gendarmes. Nous irons sur place. Dans ce journal également, EDF qui renonce aux coupures de courant pour impayés. Et puis le témoignage de ces migrants massés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Il confirme bien, d'après notre envoyé spécial, la théorie selon laquelle le régime de Loukachenko les aurait poussés jusque-là.
Les deux débats du jour, le hashtag balance ton bar d'abord et cet appel au boycott en Belgique après la multiplication des plaintes d'agression au GHB. On vous dira ce que c'est, faut-il s'inquiéter en France. Et puis à 12h50, la campagne présidentielle, on vous emmène à nouveau dans la commune de Émerin, cette commune près de Lille qui vote exactement comme le reste de la France.
La question du jour sur RTL.fr, balance ton bar, vous sentez-vous en sécurité dans les bars et les boîte de nuit, vous dites non à 54%. La météo du jour, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Il fait vraiment froid.
Oui, c'est vrai que ça picote, mais c'est la dernière fois en fait, parce qu'on a un ciel bien dégagé. Bah oui, demain les nuages vont revenir et par le coup, bah, les températures remonteront aussi. Alors on va avoir beaucoup de soleil cet après-midi, il reste un petit peu de grisaille dans le nord-est, ça va se lever assez rapidement. On garde de l'instabilité en Méditerranée, principalement entre les Pyrénées-Orientales et la Corse, ça va être le cas toute la journée. Et puis les nuages annonciateurs de la dégradation prévue pour ce week-end qui aborde également les côtes de la Manche, ça pourrait donner quelques gouttes cet après-midi entre le Cotentin et les côtes Picardes. Côté température, au meilleur de l'après-midi, donc entre 16h et 16h30, on aura 6 degrés à Besançon, 7 à Lyon, 12 à Paris et au Mans, 16 à Nîmes et 19 à Limoges.
Pas chaud, effectivement. Merci Valérie et à tout à l'heure pour le programme du week-end.
RTL Midi.
Retour donc d'abord sur ce mystère qui entoure la disparition de la jeune Lisa en Mayenne. La jeune femme est à nouveau entendue par les gendarmes. Bonjour Julien Faudra. Vous
Bonjour.
Êtes sur place pour RTL. L'audition a débuté à 10h ce matin dans les locaux de la gendarmerie de Château-Gontier.
Oui, la lycéenne a quitté ce matin son domicile caché à l'arrière de la voiture pour rejoindre en effet la gendarmerie de Château-Gontier dans ses locaux perdus dans le brouillard au bord d'une zone pavillonnaire. 30 gendarmes mobilisés sur cette affaire. Lisa est interrogée en ce moment par la section de recherche. Va-t-elle confirmer ses premières déclarations? La camionnette verte dans laquelle elle aurait été enlevée alors qu'elle faisait du sport, un footing dans un bois près de chez elle en Mayenne. Son évasion enfin après avoir déjouer la vigilance des kidnappeurs pour trouver refuge dans un snack de Sablé-sur-Sarthe dans la Sarthe. Lisa est entendue donc depuis plus de 2 heures maintenant. Quelle est l'origine de ces blessures qui demeurent légères, surtout des égratignures? À quoi ressemblaient les ravisseurs? Et puis cette camionnette, des détails, la jeune femme n'en donnait que très peu lorsqu'elle a été interrogée pour la première fois. Cette seconde audition, espèrent les enquêteurs, doit permettre de comprendre tout ce qui s'est passé après la découverte dans les bois du téléphone portable et des écouteurs taché par ce qui pourrait s'apparenter à du sang. 26 heures, les 26 heures encore mystérieuses pendant lesquelles Lisa a disparu.
Julien Faudra en direct de Château-Gontier pour RTL.
Dans l'actualité également, l'épidémie de Covid, et ça se confirme, le taux d'incidence continue de progresser.
Plus 44% en une semaine, ça repart aussi à la hausse à l'hôpital, dans une moindre mesure. Bien sûr, aujourd'hui ce sont 6952 personnes qui sont hospitalisées en France pour Covid. Parmi elles, 2500 sont entièrement vaccinés, soit une sur trois. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
On n'y comprend plus rien, je croyais qu'être vacciné, ça permettait d'éviter l'hôpital.
Alors effectivement, si on regarde ces chiffres bruts, ça peut faire peur, mais il faut rappeler qu'il y a plus de 50 millions de personnes vaccinées en France. Donc, si on rapporte le chiffre que vous avez donné à ces 50 millions de Français, on a en réalité 0,0044% de personnes vaccinées qui sont à l'hôpital à cause du Covid. En revanche, pour les non vaccinés, cette proportion est 9 fois plus importante. Donc ces chiffres collectés dans les hôpitaux confirment ce que disent les médecins depuis des mois. Le vaccin réduit très fortement de 90% le risque d'avoir une forme grave, mais bon, bah, il reste 10%. Il faut faire attention, respecter les gestes barrières. On peut entrer à l'hôpital quand on a eu 2 doses de vaccin. On peut même en mourir. 297 malades vaccinés sont décédés depuis un mois. Ce sont surtout des personnes qui ont des comorbidités, obésité, cancer, maladies cardiaques, qui sont âgées, qui ont un système immunitaire fragile. Ce sont pour toutes ces personnes, et il y en a sans doute autour de vous, qu'il faut continuer à faire attention.
Merci beaucoup Virginie Garin pour ces explications. Au large des côtes françaises, trois migrants portés disparus alors qu'ils tentaient de traverser la Manche en kayak. Un drame qui intervient alors que le nombre de traversées illégales a atteint un nouveau record hier. Plus de 1000 répertoriés. C'est inacceptable, dit ce matin le ministère de l'Intérieur britannique, qui explique que le public britannique en a assez, je cite, de voir des gens mourir alors que des groupes de criminels sans pitié profitent de leur misère. Autre crise, c'est celle qui se joue à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ces milliers de migrants massés dans des conditions désastreuses. Une instrumentalisation orchestrée par le régime du président Loukachenko, a dit hier soir le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez pu le vérifier sur place, sur le terrain, Nicolas Burnand.
Oui, petite moustache, crâne dégarni. Mohamed, 54 ans, fait partie de ceux qui ont réussi à poser un pied en Europe. Ce Syrien a fui la guerre. Réfugié en Jordanie, il a décidé d'entamer ce long voyage avec son fils au péril de sa vie.
On m'a dit que l'on pouvait aller en Biélorussie pour entrer en Europe. Je suis alors passé par Dubaï, j'ai demandé un visa à l'ambassade, le voyage avec l'hôtel environ 2 500 $. J'ai acheté un billet d'avion en ligne, je suis allé à Minsk 6 jours. Beaucoup de gens venaient d'Irak, d'Afghanistan, d'Afrique. Et après cela, je suis allé à la frontière.
Des bus et des taxis conduisent les migrants jusqu'à la bordure de la forêt. Ils sont alors regroupés par les gardes frontières. Les policiers biélorusses coupent les barbelés pour les pousser vers la Pologne. Cherov, un kurde syrien, a marché plusieurs jours.
Quand j'ai vu les gardes frontières biélorusses, ils m'ont tabassé et m'ont cassé des côtes. Les Polonais m'ont refoulé 3 fois. Je ne pouvais pas manger, pas boire. J'étais malade. Il faisait très sombre. J'ai vu des animaux sauvages. J'étais effrayé. Après 4 jours, je suis rentré en Pologne, je n'avais plus d'énergie, je pensais mourir et on m'a emmené à l'hôpital.
Aidé par une association locale, Cherov reprend désormais des forces dans un centre d'accueil. Il souhaite poursuivre sa route jusqu'aux Pays-Bas. Des milliers d'autres migrants restent piégés ici, dans les forêts de Podlachie, aux confins de l'Europe.
Nicolas Burnand, envoyé spécial d'RTL à la frontière polonaise.
Ils sont chaque année 200 à 300 000 foyers à se voir privés d'électricité. J'allais dire ils étaient.
Oui, parce que c'est désormais terminé. En tout cas, chez EDF, le géant de l'énergie, l'annonce Anaïs Bouissou, il ne coupera plus le courant.
Oui, plutôt qu'une coupure sèche avec plus du tout d'électricité, EDF pratiquera des limitations de puissance électrique, même l'été, en dehors des périodes de trêve hivernale. Cela signifie que vous aurez toujours un peu d'éclairage, un peu de courant pour faire fonctionner le frigo, pour faire cuire les aliments, voire pour faire tourner la box internet. Mais qu'en revanche, le chauffage, lui, plus consommateur en énergie, il sera coupé. Pour vous donner un chiffre, c'est ce qui se passe quand le courant est limité aux alentours de 1000 watts. L'objectif, c'est d'accompagner davantage ceux qui n'ont plus du tout les moyens de payer au lieu de les priver de tout moyen de subsistance au quotidien.
Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Du côté des associations, bien sûr, on se félicite. Ça faisait des années qu'elles réclamaient une telle mesure. Manuel Domergue est membre de la Fondation Abbé Pierre.
C'est une avancée historique. EDF, qui regroupe 70% des consommateurs d'électricité en France, s'est donc engagé à ne plus couper le courant pour impayés aux clients qui auraient du mal à honorer leurs factures. C'est vraiment un minimum vital que la société doit à tous ses habitants, quel que soit leur montant d'impayé. Au niveau financier, c'est vraiment pas grand-chose. On parle de quelques dizaines de millions d'euros en jeu. Par rapport au marché de l'électricité, c'est une goutte d'eau dans l'océan. En revanche, au niveau de l'avancée de la civilisation, pas pouvoir couper l'eau, pas pouvoir couper l'électricité aux ménages pauvres, c'est quand même une avancée intéressante. Donc c'est vrai que ça enlève un poids, une épée de Damoclès au-dessus de la tête de millions de ménages. Donc il faut le saluer et puis encourager les autres fournisseurs à suivre l'exemple d'EDF.
Des propos recueillis pour RTL par Mourad Jabari. Le salon du Made in France, lui, a ouvert ses portes hier. Et coup de projecteur ce midi, Pierre Herbulot, sur ces entreprises qui se relocalisent.
Oui, comme cette espèce de petite radio bleu clair qui raconte des histoires.
Suzanne et Gaston rêvent avec le petit prince.
Après 4 ans de production en Chine, elle sort désormais d'une usine de Bayonne sans augmentation de prix. Pour ça, il a fallu complètement revoir la fabrication et automatiser la chaîne de production, raconte Sandrine Miès, responsable marketing chez Luni.
Il y a tout un travail à faire sur le boîtier, sur simplifier les éléments de composition, c'est-à-dire retirer des vis, essayer de pouvoir retirer des éléments de manipulation dans la production. Il y a tout un investissement de départ qui est important.
Une prouesse possible grâce à l'excellente santé de l'entreprise, plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Pour Aigle, le rapatriement dans la Vienne de sa ligne de production de bottes enfants répond tout simplement à une demande. Malgré un prix beaucoup plus élevé, les modèles adultes cartonnent, déjà fabriqués en France. Sandrine Conseiller, directrice d'Aigle.
Aujourd'hui, on se rend compte que sur ces produits-là, on fait 30% de croissance. Donc, est-ce qu'il y a un choix de l'ensemble d'entre nous, en fait, d'aller vers ces produits plus vertueux pour la planète et aussi qui sont ancrés dans nos territoires? La réponse est oui.
Des relocalisations synonymes pour ces deux entreprises de création d'emplois, près d'une centaine.
Reportage signé Pierre Herbulot pour RTL. Un mot de rugby avec ses 5 changements dans la composition du 15 de France qui affrontera la Géorgie dimanche à Bordeaux. Retour notamment du 3e ligne Grégory Aldrit. Fabien Galthié maintient sa confiance aux deux ouvreurs de métier, Romain Ntamack et Mathieu Jalibert, dont l'association avait été peu convaincante face à l'Argentine samedi dernier.
On va parler dans une seconde des nombreuses femmes qui racontent avoir été agressées sexuellement, droguées à leur insu par du GHB dans des bars. Et il y a le hashtag balance ton bar qui a été lancé pour prévenir et notamment sensibiliser les dirigeants de bars et de restaurants. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
On commençait à danser, à s'amuser comme d'habitude. Et vers 3h du matin, je prends un verre et là, trou noir.
Un verre et puis le trou noir. Cette jeune fille est une victime du GHB, cette drogue qu'on appelle la drogue du violeur, un produit qui est indécelable, glissé dans un verre. Alors le phénomène n'est pas nouveau, ça fait des années et des années qu'on en parle, mais chez nos voisins belges, les plaintes se sont multipliées ces derniers mois. Résultat, plusieurs associations ont lancé le hashtag balance ton bar et appellent aujourd'hui au boycott. Qu'en est-il en France? Faut-il s'inquiéter pour nos enfants, nos petits-enfants et surtout, que faire? C'est le premier débat d'RTL Midi. Avec nous, Mathilde Neuville. Bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association Consentis qui œuvre pour plus de sécurité dans les lieux festifs. Mathieu Lebrun, vous êtes-vous gérant d'un bar de discothèque dans la Manche? Bonjour.
Bonjour.
Et merci à tous les deux d'être en direct avec nous sur RTL. Mathilde Neuville, d'abord du GHB, bien sûr, il y en a ici en France. Est-ce que vous diriez qu'il y en a plus qu'avant?
Alors ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que les mouvements balance ton bar, MeToo Bar, MeToo GHB ont permis visibiliser en fait la parole des victimes de GHB dans les milieux festifs. Maintenant, les interactions entre les produits et les violences sexuelles dans les milieux festifs, ça fait longtemps que, enfin, c'est le cas depuis toujours. On en parle simplement de plus en plus récemment.
Mais c'est vraiment la responsabilité des bars, parce qu'avec ce balance ton bar, finalement, vous les pointez du doigt, quoi.
Les bars ont des responsabilités, en fait les organisateurs, organisatrices d'événements festifs ont des responsabilités par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, elles doivent mettre en place des dispositifs de prévention contre les violences sexistes et sexuelles dans leurs événements. Donc ça passe aussi par la sensibilisation sur les produits psychoactifs, mais aussi par exemple comment détecter une personne qui serait trop intoxiquée, qui aurait été droguée à leur insu. Comment la prendre en charge, comment réagir, etc. Donc, c'est pour ça que l'association Consentis accompagne les organisateurs et les organisatrices de soirées dans la mise en place d'un dispositif de prévention et sensibilise le public à la notion de consentement sexuel. Donc là, le but, c'est de créer des soirées plus sécurisées.
Madame Neuville, est-ce qu'il existe une statistique depuis le début de l'année 2021 d'un nombre de jeunes filles qui auraient été droguées au GHB?
Alors, les comptes Héroïne 95, Balance ton bar, etc. sont en train de recenser. Donc là, on voit de plus en plus de témoignages. C'est encore trop tôt pour savoir si c'est un phénomène en hausse ou alors si c'est simplement une médiatisation plus importante.
Mais j'ai pas idée du nombre. C'est 100, c'est 1000, c'est 10 000?
Il y a des études qui sont en train d'être créées pour justement évaluer en fait l'ampleur du phénomène. En termes d'études, nous, l'association Consentis avait fait une étude quantitative en février 2018 pour faire un état des lieux des violences sexuelles dans les milieux festifs. Et parmi les statistiques de cette étude, il y avait 60% des répondantes s'identifiant comme femmes qui avaient déclaré avoir déjà été victimes de violences sexuelles en milieu festif.
Mathieu Lebrun, j'imagine qu'en tant que gérant de bar de discothèque, ça vous fait réagir, ça?
Oui, alors ça me fait énormément réagir, parce que bon, on a connu tous Balance ton port, où on ciblait une personne néfaste et dangereuse pour les femmes. La Balance ton bar, je voudrais pas revenir à un passé douloureux, mais c'est quand même... c'est quand même un peu fort de café. Il faut pas oublier que effectivement, on a une grosse pensée, et je peux vous dire que le monde de la nuit, que ça soit les bars, les discothèques, surtout avec ces deux années qu'on vient de vivre, qui ont été particulièrement difficiles pour le milieu festif, on enchaîne directement avec ça en nous pointant du doigt. J'entends ce que dit la dame, hein, mais faut pas l'oublier que effectivement, alors beaucoup moins grave, hein, on est des victimes aussi de ça. Si on pense réellement les patrons de bars, de discothèques, ça nous fait sourire. Bien au contraire, on se mobilise. Et lié à la période Covid, où on a créé des groupes, on a des liens assez importants tous ensemble sur toute la France. On a des groupes sur WhatsApp où on s'en parle, et je peux vous dire, ça circule. Et là, j'entends, quand on n'a pas de statistiques, moi, je peux vous dire qu'effectivement, le problème, et moi, je le vois aussi dans mes établissements, le problème est beaucoup plus important qu'avant Covid.
Ah oui, ça s'est développé. Il y a plus d'agressions GHB après le Covid.
Ah oui, mais c'est clair.
Moi, c'est ce que j'entends, c'est important ce que vous nous dites là.
Ah oui, mais moi, ce que, enfin,
c'est vous, comment ça se passe?
Là, on a des retours sur toute la. Ah ben, j'ai samedi dernier encore, j'ai une cliente qui s'est retrouvée dans. On l'a vu tout de suite. C'est pas de l'alcool, c'est on est sur un pantin.
Ni ça plus veut ni dire moins. Que c'est tous les week-ends.
Donc... Évidemment. Non, c'est pas tous les week-ends chez moi, heureusement, et chez mes collègues aussi. Mmh. Mais on a quand même ça beaucoup plus régulièrement.
Alors, Monsieur Lebrun,
c'est pas normal.
C'est pas normal, on est d'accord. Mais oui. Techniquement, lorsque vous apportez un verre à une jeune femme, est-ce que ce verre est ouvert, si j'ose dire, ou est-ce que vous mettez dessus pour prévenir un capuchon, comme dit Amandine,
qui a... On va repartir du début de l'entrée de la discothèque. Du début à l'entrée de la discothèque. Attendez, c'est ma fille, excusez-moi, vous voulez rentrer.
Ouais. Du début de l'entrée de la discothèque. Savez, c'est la vie, en même temps. C'est la vie, votre fille. Elle a entendu qu'on parlait de bar discothèque, elle veut prendre un verre, peut-être.
J'ai deux filles. Non, elle a 3 ans, c'est un peu plus court, mais je pense déjà à l'avenir de tout ça. On va reprendre le début. Là, depuis que j'ai remarqué, et on a tous remarqué, moi, mon physio à l'entrée, déjà, fait de la prévention au niveau des filles. Si on vous offre un verre d'une personne que vous ne connaissez pas, vous ne le prenez pas. Il y a les fameux capuchons qu'on peut mettre sur les verres. Mais là, je prends dans l'ensemble d'une discothèque.
C'est systématique, le capuchon sur un verre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand vous servez un verre. Est-ce que ce verre arrive ouvert, ou est-ce qu'il a quelque chose dessus?
Là, pour l'instant, quand ça sort de mon bar, que c'est mon serveur qui donne le verre, il n'y a pas de capuchon dessus. Là, ça se met en place. Et attention, c'est un coût. Le capuchon, c'est 1 € par verre. Donc, je le comprends, l'aspect sécurité, mais après,
il vaut combien le verre chez vous?
Et c'est ce qui fait tourner toute la France, d'ailleurs, malheureusement. Non, ce que je voulais réagir là-dessus, c'est que j'entends ce que disait la dame tout à l'heure. Elle dit, oui, il faut faire de la prévention, il faut mettre des choses en place, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui font ça?
C'est là qu'il faut peut-être agir.
Parce que des clients qui arrivent, alors déjà, on doit faire attention dans des établissements de nuit, d'avoir des gens qui vont se comporter bien, et je parle en termes généraux de bagarres, qui ont des comportements sains et festifs, mais on n'a pas le droit de fouiller les gens. Enfin, je veux dire, et puis même, j'imagine, c'est des tout petits cachets, parce que je ne suis pas un adepte de ça.
C'est pour ça qu'il faut mettre, semble-t-il, une sécurité lorsque vous servez le verre, et que ce verre, on est certain que rien n'a été mis dedans.
Voilà. Et dire aux gens de ne pas laisser leur verre.
Oui, mais moi derrière, attention, pareil, je ne tire pas à boulet rouge, je ne cible pas ni la gendarmerie ni la police, même entre guillemets l'État. J'ai l'impression que même l'État prend ça à la légère. Nous, on est en train de tirer la sonnette d'alarme depuis bien avant Balance ton bar. Hein, parce que réellement, c'est ce qui est très inquiétant. Nous sommes aussi victimes de tout ça. Et là, on tire la sonnette d'alarme. Je prends un exemple d'un de mes collègues qui, lui, ça lui est arrivé il y a pas très longtemps. On prit en charge très rapidement avec le service de sécurité la demoiselle. Ils ont fait intervenir les pompiers. Le patron s'est déplacé auprès des urgences de la ville et a demandé « faites tous les tests tout de suite pour savoir si elle a été droguée ». La réponse a été des soignants, et pareil, mais ça s'entend, là, ça se répète plusieurs fois, a été « non, on connaît notre travail ». Parce que, attention, c'est difficilement détectable, ça, c'est prise de sang, urine, tout, mais parce que ils avaient la personne. Et ben, comme le boulot n'a pas été fait... Elle n'a pas été droguée, parce que la réponse, on est toujours à ce que je dis, Pascal, on s'est vu plusieurs fois pendant la période de fermeture des discothèques, nous sommes stigmatisés, ça veut dire que dès qu'il voit des clients qui arrivent aux urgences d'une discothèque, de suite, c'est bourré, voilà, c'est débile, voilà, et c'est catastrophique.
Merci, donc, Mathieu Lebrun, c'était un...
Il y a l'UMIH qui est en train de mettre en place et de trouver une solution pour fournir très rapidement à tout le monde et un coup de main financier pour qu'on puisse avoir tout le monde et tous les clubs, que ce soit bar ou boîte de nuit, d'avoir des capuchons au moins sur les verres. Mais je ne pense pas que ça soit la solution miracle
pour arrêter ça.
Merci Mathieu Lebrun. L'avantage, c'est d'en parler. Si on en parle, on sensibilise. Et les parents qui nous écoutent en ce moment, ou les enfants qui nous écoutent en ce moment, c'est plutôt les enfants qui vont en boîte de nuit ou dans les bars, aujourd'hui, bah, faites attention et à ce que votre verre, vous l'ayez toujours près de vous et à regarder toujours ce qui se passe autour de votre verre. 12h52, c'était notre premier débat. Notre deuxième, c'est la campagne présidentielle. On vous emmène à Émerin, cette commune qui paraît-il vote comme la France à chaque fois.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Émerin, c'est une petite commune où la vie est paisible, mais où on s'inquiète de la disparition des commerces.
Avant, on a eu 3 boucheries, on avait 2 boulangers. Maintenant, il n'y a plus rien.
Une commune où la prochaine élection n'est pas forcément porteuse de beaucoup d'espoir.
C'est pas le président qui fera grand-chose. Hein.
Mais où les conversations tournent souvent autour des mêmes sujets.
Bah, l'immigration et la fermeté. Hein.
Et ça, c'était il y a un mois. William Galibert nous emmenait à Émerin, cette commune de 3200 habitants tout près de Lille, qui en 2017 a voté exactement comme le reste de la France. On découvrait Jeff, Patricia, que vous avez entendu. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Alors comme promis, vous êtes retourné sur place. Est-ce que l'élection présidentielle de mai prochain passionne plus aujourd'hui qu'il y a un mois?
Passion, c'est toujours pas le mot que j'emploierais. Franchement, l'intérêt, il est présent. Oui. Je l'ai senti de plus en plus. On commence à bien baigner dedans alors qu'on est encore à 5 mois du premier tour. Je veux dire par là que les gens que j'ai croisés, ils sont très informés. Ils savent qui fait quoi, qui a dit quoi, qui est candidat, qui propose quoi. Ouais, vraiment, on a cet intérêt, on le ressent. Mais après ça, quel que soit le camp, quel que soit les opinions, les préférences de chacun, ils ont beau être informés, ils sont pas emballés. Mais ça, je pense que peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent se retrouver aussi dans cette description. Vraiment un peu, vous savez, comme au resto, quand vous avez le menu à la main, le serveur planté devant vous, vous avez très faim, mais qu'il n'y a rien qui vous plaît sur la carte. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. C'est le cas de Cédric, qui pour l'instant ne trouve son compte ni dans les candidats, ni dans les débats.
De toute façon, on sait que les programmes les plus porteurs sont les programmes qui font soit dans la surenchère sécuritaire, parce qu'il faut rassurer les gens, mais on les rassure pas de la bonne façon, soit dans une surenchère de confort, voilà, on va rester entre nous, on va aider un peu, mais pas trop. Bref, on reste dans une zone clientéliste, donc c'est pas une élection qui accouchera de quelque chose de bénéfique.
Cédric, il est plutôt marqué à gauche, vous l'avez peut-être deviné en l'écoutant, mais à droite, c'est pareil. Je suis retourné voir notre truculente camarade Patricia, oui. Vous savez, l'ancienne gérante de tabac. Elle est sarkozyste dans l'âme, mais elle est toujours orpheline de son champion. On va l'écouter. En une minute, elle va tailler un costard à tout le monde. La conversation démarre sur la personnalité d'Emmanuel Macron.
Il est jeune. Moi, je dis qu'il était trop jeune pour être président. Ouais. Bon, je trouve qu'il est mignon, attention, hein, je ne vais pas dire... Bah, il a de la classe, mais je trouve qu'il est jeune. Quoi. Il est un peu prétentieux quand même. Hein.
Il est moins jeune maintenant.
Mais il reste jeune. Il a 46 ans, je crois.
43,
bah ouais. Bah. C'est jeune pour être président, c'est jeune pour mener la France. Et puis, il n'a pas eu la main très très ferme sur certaines choses. Il est un petit peu... Il est resté petit, prétentieux. Ouais.
Mais effectivement, il faut voir si les autres sont mieux. Quoi. Enfin...
Bah, on le sait point. Ouais. Je vous l'ai dit, Zemmour, moi, il me fait peur. Il a une tête de corbeau. Il me fait peur. Xavier Bertrand, je l'aime bien, mais je ne le vois pas avec l'étoffe de président. Le problème, c'est qu'on nous fait des promesses, et puis ben, au pays des promesses, on meurt de faim. Ou de soif.
Bon, alors Patricia, elle le fait avec ses mots, oui. Avec sa gouaille, mais là aussi, je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui nous écoutent qui peuvent se reconnaître dans ses portraits.
Alors, dans ce qu'elle vient de dire, elle parle notamment d'Éric Zemmour. Patricia, est-ce que les gens à Émerin vous en ont spontanément parlé, ou est-ce qu'il faut creuser pour que le nom revienne, par exemple?
Spontanément, non, mais spontanément, on ne me cite aucun candidat.
Aucun.
Et à chaque fois, il faut creuser, même pour dire du mal, du bien, il faut à chaque fois aller le chercher. Essayer de casser la réponse naturelle. Oh là là, moi, la politique, vous savez, c'est pas trop mon truc. Bon, il faut essayer d'aller au-delà de ça. Quand on est sensible à ces idées, on me dit qu'on le trouve parfois un peu excessif, mais tout ça n'a pas valeur de sondage. Puisqu'on parle de sondage, il y a 2 enquêtes qui sont parues hier qui donnent Éric Zemmour en légère baisse. Là, il faut quand même se méfier. Pas tirer de leçons tout de suite, parce que dans d'autres études publiées à peine quelques heures avant ou en début de semaine, il était plutôt en légère hausse. La constante dans toutes les enquêtes en ce moment, c'est la solidité d'Emmanuel Macron, toujours en tête assez largement. Visiblement, l'allocution de mardi a plutôt été bien reçue. Mais bon, 5 mois de la présidentielle, ça reste très long. Il peut se passer beaucoup de choses en 5 mois.
Merci William. On va en parler avec les auditeurs précisément de ces sondages. Est-ce qu'ils y croient? Pourquoi pas? Le retrait aussi de Zemmour dans les sondages, hein, bien évidemment. Mais il n'est toujours pas candidat. Je ne sais pas si vous avez des
Emmanuel
infos à
Macron
nous donner.
Non plus, hein, d'ailleurs. Oui, les deux en tête.
Sauf que madame...
Mais ils font un concours, en fait. C'est ça.
Sauf que hier, il y a une ministre qui a dit qu'il était candidat.
Oui.
Hein, c'est une petite boulette,
c'est
peut-être.
C'est tout comme.
Oui. Il est 13h. La pause, à tout de suite. Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Balance ton bar, c'est le hashtag lancé par plusieurs associations et de nombreuses femmes racontent avoir été agressées sexuellement, droguées à leur insu par du GHB. On est avec Victoire qui a 19 ans et Victoire, c'est l'âge où on sort beaucoup forcément. Bonjour Victoire.
Oui, bonjour Pascal.
Vous faites très attention quand vous sortez?
Ouais, je double de vigilance je pense par rapport aux garçons qui sortent.
On va en parler ensemble, le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, ce mystère qui entoure toujours la disparition de Lisa en Mayenne, la jeune femme qui avait disparu lundi, qui a été depuis retrouvée, est à nouveau entendue par les gendarmes. Une audition qui a débuté à 10h ce matin dans les locaux de la gendarmerie de Château-Gontier. Ils sont chaque année 200 à 300 000 foyers à se voir privés d'électricité pour cause d'impayés. Eh bien, c'est désormais terminé, en tout cas chez EDF. Le géant de l'énergie l'annonce, il ne coupera plus le courant. Décision historique, disent ce midi les associations qui réclamaient cela depuis des années. Et puis du rugby avec 5 changements dans la composition du 15 de France qui affrontera la Géorgie dimanche à Bordeaux. Romain Ntamack et Mathieu Jalibert, en revanche, eux seront bien de la partie. Notre météo avec vous, Valérie Quintin. Ça va se réchauffer un peu ce week-end, mais oui, ça veut dire moins de soleil.
Ah bah ça, c'est la conséquence.
Pas tout gagner.
Voilà, on va avoir une grosse couverture nuageuse dès demain matin. D'ailleurs, il n'y aura pas de gelée sur le pays demain. On aura une fourchette de 2 à 12 degrés au réveil entre la Bourgogne et le Roussillon. Déjà un ciel très nuageux, excepté des Alpes à la Méditerranée. Soleil qui va rester présent toute la journée dans ce coin-là. Ailleurs, quand même beaucoup de grisailles. Des pluies principalement demain entre le Grand Est et le Massif Central. Et puis la pointe bretonne pourrait récupérer aussi un peu de soleil l'après-midi. Les températures seront en légère hausse. 9 degrés attendus à Nancy, 13 à Clermont-Ferrand comme à Lille, 14 à Paris et au Havre, 15 à Nantes et Biarritz, 19 pour Marseille, 20 degrés à Toulon. Toujours beaucoup de grisailles pour la journée de dimanche. Toujours près de la Méditerranée, un petit peu plus de soleil comme sur la pointe bretonne. Des températures qui restent relativement clémentes. 12 degrés de moyenne au nord, 14 au sud. En revanche, il faudra peut-être faire attention. En soirée, on pourrait avoir pas mal de neige dans les Alpes à partir de 1400 mètres.
Merci Valérie.
Merci Valérie, merci Amandine et merci à Ludovic Van de Kerkhoff qui a assuré la rédaction en chef de cette édition de 12h30. Il est 13h04.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Donc Victoire, d'abord, est-ce que vous connaissiez le GHB? Est-ce que vous en aviez entendu parler?
Bah, malheureusement, oui, j'en ai déjà entendu parler parce que j'ai des proches qui ont été malheureusement touchés par cette drogue du viol. Heureusement pour eux, il s'est rien passé par la suite. Ils n'ont pas été violés, mais par contre, ils ont eu un blackout, un trou noir pendant tout le reste de la soirée. Ils se sont réveillés. Heureusement, on était à côté d'eux et je suis être vigilant pour les accompagner parce que sinon il aurait pu leur arriver encore pire.
Parce que vous étiez témoin par exemple d'une personne qui avait bu du GHB, vous étiez avec elle par exemple dans une soirée et elle était inerte?
Alors non, moi j'ai pas été présente dans ce cas-là, mais j'ai des amis qui ont été donc touchés par le GHB et qui ont été accompagnés par des amis. Moi j'étais pas présente à ce moment-là, mais après j'ai eu toute leur épopée qui m'était racontée. C'est terrible en fait, c'est terrible parce que en fait c'est une sorte de perte de conscience. Enfin ils sont plus là, physiquement ils sont là, mais leur tête elle est complètement ailleurs, et quand ils sont...